Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Léa Capuano, Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Joséphine Reynard et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Lecuivre. Et la technique ce matin, c'est Dalia. C'est le deuxième volet de notre série consacrée aux accords de libre-échange, mis en place ou débattus en ce moment dans le monde. Nous évoquions hier l'Union européenne qui multiplie les partenaires. Nous parlerons demain des rêves d'un marché unique africain. Aujourd'hui, le RCEP ou Partenariat économique régional global, l'accord de libre-échange conclu entre les 10 pays d'Asie du Sud-Est et 5 pays de la région Asie-Pacifique, dont la Chine, le Japon, l'Australie, ou comment la Chine se place au centre du jeu asiatique.
La signature du RCEP favorisera fortement la reprise économique régionale et stimulera la croissance économique mondiale. Toutes les parties soutiennent fermement un système commercial ouvert, juste et gagnant-gagnant et sont déterminées à relever les défis par l'unité et la coopération.
Dans l'étude que nous avons menée, le secteur des équipements électriques et des machines serait l'un des principaux secteurs bénéficiaires. Bien entendu, cela inclut également d'autres secteurs comme l'agriculture. Dans le même temps, l'industrie de la construction est également perçue comme bénéficiaire du RCEP en raison de l'afflux inattendu d'investissements étrangers.
Cela stimulera les investissements mutuels entre la Chine et d'autres pays. Nous avons élargi les possibilités d'investissement à l'étranger et rendu les politiques plus transparentes. Nous aurons des institutions pour faire en sorte que le commerce et l'investissement dans la région deviennent plus faciles et plus pratiques.
C'est à ce jour la plus grande zone de libre-échange au monde, le nouveau centre de gravité d'après la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, une région qui concentre un tiers du PIB de la planète et plus de 2 milliards de consommateurs. Le Partenariat Régional Économique Global, plus souvent désigné par le sigle RCEP, lie dans leurs échanges 15 pays asiatiques, les 10 d'Asie du Sud-Est, plus la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors rien à voir avec de l'amitié, tous ces pays ont de sérieux différends politiques ou géopolitiques entre eux, mais il faut croire que chacun a trouvé un intérêt à cette intégration des économies régionales et à la suppression progressive des droits de douane sur 20 ans. Deux ans après sa mise en place, quel premier bilan tiré du RCEP entre mastodontes et pays émergents, à qui bénéficie vraiment cette zone de libre-échange? Comment ces 15 partenaires ont-ils réussi à se mettre d'accord? Doivent-ils faire comme si les tensions en mer de Chine méridionale n'existaient pas? Nous en parlons ce matin avec deux invités. Bonjour Emmanuel Véron.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la Chine contemporaine et de relations internationales, associé à l'INALCO et à l'École navale. Vous avez coécrit La Chine face au monde, une puissance revisitée, paru aux éditions Capit Muscas. Nous sommes également en ligne avec Françoise Nicolas. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous, merci. Vous êtes conseillère du Centre Asie de l'IFRI. Françoise Nicolas, qui a eu l'initiative de ce partenariat économique régional global, le RCEP, et quand?
Alors, l'affaire a commencé en 2012, hein, ce projet date de 2012, et il a été lancé à l'initiative de l'Indonésie, non pas de la Chine, comme c'est assez souvent dit. En réalité, ce que l'Indonésie voulait, c'était en quelque sorte consolider, fusionner des accords de libre-échange qui existaient d'ores et déjà entre l'ASEAN, les 10 pays de l'ASEAN d'une part, et 5 de leurs partenaires dans la région, à savoir la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est un bloc d'ailleurs unique, et l'Inde. Donc l'idée, c'était d'avoir une grande zone de libre-échange qui aurait réuni ces 16 partenaires. Donc là, ce qu'ils essayaient de faire, c'était vraiment de capitaliser sur ce qu'avait déjà réussi à faire l'ASEAN en passant ces différents accords de libre-échange avec les partenaires régionaux. L'idée, c'était essentiellement de résoudre ce problème. On l'appelle le plat de spaghetti ou le bol de nouilles en Asie, à savoir la coexistence d'accords de libre-échange dont la teneur n'était pas nécessairement similaire. Donc là, il s'agissait de mettre un peu de l'ordre dans tout ça et d'avoir des règles qui auraient été les mêmes pour tous les partenaires dans la région, plutôt que d'avoir 5 ou 6 accords dont les dispositions n'étaient pas nécessairement complètement comparables.
Donc il y avait
Il s'agissait vraiment de mettre de l'ordre dans l'affaire, tout en consacrant, ce qui est absolument essentiel aux yeux des pays de l'ASEAN, ce qu'ils appellent la centralité de l'ASEAN. Donc l'idée, c'était, on a l'ASEAN au centre, et puis les différents partenaires régionaux qui s'organisent, qui s'articulent autour de l'ASEAN. Bon, ça, alors, c'est un peu la vision idyllique, mais c'est ce qui explique que ce projet ait été lancé donc par l'Indonésie et avec l'Indonésie l'ensemble du groupe ASEAN.
Je vais laisser parler Emmanuel Véron, Françoise Nicolas. Comment justement a été établi ce cadre de cet espace de libre-échange? On parlait hier du CETA entre l'Union européenne et le Canada, plus de 2300 pages d'un texte très aride. Là, il s'agit de formaliser un espace de libre-échange entre 15 pays dont la Chine, le Japon, l'Australie, avec des pratiques commerciales très différentes d'un pays à l'autre. Comment on fait pour formaliser un cadre?
Oui, alors, intéressant de resituer, comme Françoise Nicolas le faisait, sur l'initiative qui était d'abord sud-est asiatique, notamment de l'Indonésie, mais aussi de pays comme le Vietnam ont un rôle assez moteur. Et ce qui est aussi intéressant à observer, c'est le poids de la Chine au sein même des économies de l'ASEAN, donc des pays d'Asie du Sud-Est, qui va croissant sur les 20 dernières années, précisément sur les 10 dernières années, période avant Covid. On y reviendra sur la période de pandémie et jusqu'à nos jours. Dans ce cadre-là, la Chine a pris un poids toujours plus important économiquement, très fonctionnel, c'est-à-dire que les échanges économiques entre la Chine et ce qu'on pourrait appeler par ailleurs son arrière-cour intégré, de plus en plus intégré sud-est asiatique, voire asiatique, sont puissants, structurants. À côté de cela, il y a une forme d'intégration institutionnelle. Et on en vient à votre question, chère Julie, sur le sujet de l'élaboration d'un cadre institutionnel entre les pays qui seraient signataires. Dans ce cadre-là, la Chine va reposer sur une forme de primatie qu'elle cherche à avoir, qu'elle cherche à démontrer, qu'elle cherche à valoriser, à mettre en avant, pour définir ce cadre précisément, ce cadre institutionnel-là. Donc elle va être très proactive au sein de l'ensemble des architectures multilatérales régionales, au sens asiatique, et va progressivement imposer, si je puis dire, son poids, ses visions et sa façon peut-être de traiter le cadre institutionnel, ce qui nous amène à la signature du RCEP il y a maintenant 2 ans et demi, presque 3 ans.
D'autant que, Françoise Nicolas, vous reveniez tout à l'heure sur le contexte de l'époque dans lequel ce traité, ce partenariat de libre-échange a été réfléchi, a été initié. C'était un contexte, on était aux États-Unis lors de la deuxième mandature de Barack Obama, qui lui imaginait un traité transpacifique avec les pays d'Asie du Sud-Est et d'Asie-Pacifique, mais sans la Chine. Est-ce que la Chine a voulu accélérer ce partenariat régional économique global, le RCEP, contre le traité transpacifique imaginé par les États-Unis?
Je ne suis pas sûr qu'elle ait cherché véritablement cela, mais c'est vrai que le projet de RCEP a bien fait son affaire. C'est tout à fait clair. Et là, je suis assez d'accord avec Emmanuel Véron. Il est évident que la Chine va tirer bénéfice de ce RCEP, même si elle n'a pas été à l'initiative. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment une réponse au partenariat transpacifique proposé par les États-Unis. Mais il est clair que ça a certainement donné de l'élan à ce projet RCEP, parce que ça pouvait être conçu ou en tout cas envisagé comme une sorte de contrepoids et l'organisation d'une région qui d'ores et déjà était très intégrée. Ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que ce RCEP, il a une vraie logique économique parce qu'il vient consacrer une intégration de fait qui était déjà assez poussée. Alors certes, au sein de laquelle la Chine avait un poids dominant, enfin un poids très important, mais d'ores et déjà, toutes ces économies sont assez étroitement liées les unes aux autres. Il y en a une qui était un petit peu décalée par rapport aux autres, c'était l'Inde, et d'ailleurs l'Inde va se retirer de la négociation. Mais pour revenir sur votre question, comment est-ce que tous ces pays ont réussi à se mettre d'accord? Ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué puisque on a vu que le projet est lancé en 2012 et finalement il va être signé en 2020. fin 2020. Donc vous voyez, il a fallu quand même un certain nombre de cycles de négociations, de discussions. Ça a été extrêmement compliqué. Mais finalement, ils y sont parvenus et on a eu signature de l'accord fin 2020. Mais l'entrée en vigueur a encore tardé parce que pour que l'accord vraiment entre en vigueur de manière concrète, il fallait encore que les pays ratifient. Et il fallait qu'un certain nombre de pays aient ratifié, 6 de l'ASEAN, je crois, et 3 des partenaires hors ASEAN, pour que l'accord entre en vigueur. Donc finalement, l'accord est entré en vigueur pour certains d'entre eux début 2022, mais pas pour tous. Certains n'avaient toujours pas ratifié début 2022, notamment l'Indonésie, de manière assez surprenante, alors qu'elle avait été à l'initiative, elle a tardé à ratifier.
On parlera de l'Indonésie tout à l'heure en fin d'émission pour le focus.
Et puis les Philippines. Donc en réalité, cet accord véritablement complet n'est entré en vigueur que dans le courant de 2023, en juin 2023.
Donc on a
assez peu de recul finalement sur les effets que cet accord va avoir maintenant qu'il est vraiment complètement ratifié par tout le monde, sauf la Birmanie pour des raisons évidentes.
Et pour des raisons de guerre en Birmanie en ce moment et la junte militaire qui tient toujours les rênes du pouvoir, Emmanuel Véron, donc on parlait hier de l'Europe où chaque traité de libre-échange doit être ratifié ensuite par les parlements nationaux. Le CETA d'ailleurs a été rejeté lundi dernier par le Sénat français. Il l'a aussi été par Chypre il y a quelques temps sans que ça lui porte un coup fatal par ailleurs. Mais le RCEP aussi donc a été débattu par la représentation nationale au Japon, en Australie, en Corée du Sud, devant les parlements des pays asiatiques qui disposent d'un parlement. Quel débat ça a suscité politiquement cet accord de libre-échange? Parce qu'on est là face à des pays qui pour certains sont très alliés à la Chine et pour d'autres lui sont très hostiles.
Il y a peut-être, et c'est contrairement dans les différences de trajectoire entre les dynamiques de libre-échange en Europe, qui est peut-être un des formats les plus aboutis au monde d'ailleurs, en l'Union européenne, et qui a pu servir par ailleurs de modèle à l'Asie, dont l'ASEAN et aujourd'hui le RCEP, une différence de trajectoire dans les opinions d'une manière générale, dans les opinions en Asie, que l'on se situe au Cambodge, en Indonésie, à Singapour, en Chine populaire, en Corée du Sud, au Japon. Il y a une sorte de faisceau convergent commun vers le libre-échange. C'est-à-dire qu'on a une forme de superposition ou de continuité entre la volonté politique, alors peu ou prou, et on y reviendra, des sujets très géopolitiques, très sécuritaires, y compris sur des technologies et du commerce, et l'opinion plutôt favorable pour le développement économique, tendant vers ces nouveaux cadres de libre-échange, vers ces formes d'intégration régionale par l'économie, par les échanges. Et en cela, on l'observe, et c'est une tendance de ce premier quart de 21e siècle, l'Asie est à l'avant-garde de ces dynamiques de libre-échange, malgré les tensions, malgré les dissensions territoriales de souveraineté, problématiques de prolifération, bref, l'ensemble du spectre stratégico-militaire ou sécuritaire. L'Asie est à l'avant-garde de ces logiques de libre-échange, de ces dynamiques de libre-échange. Davantage que l'Europe, ce que je disais en début d'échange, et peut-être davantage de ce qu'on pourrait observer sur ces dernières années en Amérique du Nord, et le reste du monde étant un peu, entre guillemets, à la traîne par rapport à ces sujets-là.
Et c'est aujourd'hui la Chine, Xi Jinping, personnellement, qui se pose aujourd'hui en tête de proue de l'intégration régionale au nom d'une lutte contre la confrontation de blocs, disait-il, lors du 3e forum des nouvelles routes de la soie, auquel a participé d'ailleurs son allié russe Vladimir Poutine. C'était à Pékin il y a quelque temps.
Considérer le développement des autres comme une menace et l'interdépendance économique comme un risque n'améliorera pas sa propre vie et n'accélérera pas son propre développement. Nous ne nous engageons pas dans des confrontations idéologiques, des jeux géopolitiques ou des confrontations de blocs. Nous nous opposons aux sanctions unilatérales, à la coercition économique, au découplage et à la dissociation.
Alors, Xi Jinping invitant à se départir de la logique idéologique, comme il le disait Françoise Nicolas, faisons-le au moins pour le début de cette émission, en se demandant sur ce traité de libre-échange, le RCEP, s'il pose les mêmes questions d'écart de normes, de production, des normes de production d'un pays à l'autre, qui produirait de la concurrence déloyale, si ces questions-là, strictement économiques et sociales aussi, avec des questions sociales, se posent en Asie de la même façon qu'elles se posent à chaque fois que l'Europe signe un traité de libre-échange.
Voilà, les propos que l'on a entendus de la part de Xi Jinping s'inscrivent dans la lignée du grand discours qu'il avait fait à Davos, si je ne m'abuse, il me semble que c'était en 2017, où il s'était vraiment érigé comme le héros du libre-échange, le grand champion du libre-échange, contrairement aux États-Unis qui, eux, s'étaient retirés du partenariat transpacifique et donc, à ses yeux, à lui, à Xi Jinping, s'écartait du libre-échange. C'est assez amusant. Bon, c'est ce qu'il défend, effectivement. Ce qu'il faut voir, c'est que dans ces accords, bon, il y a certes de la libéralisation tarifaire, mais il y a aussi pas mal d'autres domaines qui sont négociés. Et on a des négociations sur les marchés publics, sur le commerce électronique, sur l'investissement. Mais les questions sociales ne sont pas abordées, ni les questions sociales, ni les questions environnementales. Donc ça met de côté toute cette problématique-là, qui pourrait être particulièrement importante dans les relations précisément avec la Chine. Donc ça, c'est vraiment à souligner, et je pense que ça fait quand même une grosse différence avec les accords qui sont signés par l'Union européenne, par exemple.
Et on sait d'ailleurs combien en Chine les brevets, les réseaux d'affaires, l'industrie sont très fortement soutenus par le régime. Mais Emmanuel Véron, vous confirmez, il n'y a pas ce débat-là, les questions sociales ne se posent pas dans le cadre de cet accord de libre-échange
asiatique. Absolument, c'est en tout cas pas la priorité de ce qui est avancé dans le cadre du RCEP ou d'ailleurs d'autres formats de libre-échange en Asie. Je pense ici à l'ASEAN qui est sur finalement un format RCEP réduit à l'Asie du Sud-Est. Pour autant, il y a ce que l'on évoquait tout à l'heure sur les opinions, une forme de continuité de la volonté politique, peut-être de hiérarchiser les priorités. C'est-à-dire que, et on le voit dans une forme de, d'essentialisme culturaliste, mais sur une forme d'Asie confucéenne, qui est une cartographie qui se recouperait avec une Asie de diaspora chinoise, une convergence sur cette hiérarchisation des priorités, c'est-à-dire développement économique d'abord, et puis secondairement, dans un deuxième, troisième, beaucoup plus lointain, des sujets qu'on pourrait nous apprécier comme étant sociaux, voire environnementaux, etc., qui de facto sont des sujets essentiels pour l'équilibre même de ces sociétés, y compris environnementaux, mais la priorité n'est pas là. Et en tout cas, le politique va considérablement articuler cela pour des logiques de longévité du régime. Vous voyez, donc on a la continuité politique sur un engagement géoéconomique. Autrement dit, et c'est le cœur battant de l'émission, la superposition entre l'économique et le géopolitique, le géoéconomique et le géopolitique.
Donc on entend ce que la Chine attend de ce RCEP, une continuité, asseoir une sorte de légitimité régionale, une continuité politique comme vous le disiez. On ne peut pas prendre les 15 pays qui ont signé ce traité de libre-échange, les 15 en tout, Françoise Nicolas, mais si on devait dire à peu près ce qu'en attend le Japon, qui n'est pas du tout sur le même agenda, comme on dit aujourd'hui, que celui de la Chine, ce qu'en attend l'Australie, ce qu'en attend la Corée du Sud et ce qu'en attendent aussi ces pays d'Asie du Sud, du Sud-Est qui ne sont pas aujourd'hui parvenus au même développement économique.
Non, certes, ils ne sont pas parvenus au même niveau de développement économique, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, ils ont tous un objectif qu'ils partagent, à savoir celui du développement économique. Ça, c'est vrai, très vrai pour les pays d'Asie du Sud-Est. Mais pour les autres, c'est la poursuite de l'intégration de fait qui existe déjà. Donc la facilitation de l'approfondissement de l'intégration au niveau régional qui bénéficie à toutes les économies.
Il manquait un accord Japon-Chine et un accord Japon-Corée du Sud. Mais sinon, tous les pays faisaient l'objet déjà de traités de libre-échange bilatéraux ou entre l'ASEAN et d'autres pays. Non ?
Non, pas nécessairement à travers des accords de libre-échange. Mais dans les faits, si vous voulez, il existait depuis longtemps des réseaux régionaux de production. Donc les entreprises échangeaient énormément au sein de cette vaste zone des produits intermédiaires, des pièces détachées, des composants, et on avait ce que l'on appelle le circuit intégré asiatique. Et ça se passait en dépit de l'absence d'accords de libre-échange. Donc c'est ça que j'appelle l'intégration de fait. S'il existait d'ores et déjà de tels réseaux régionaux de production, de telles chaînes de valeur régionales. Et cet accord RCEP vient consolider tout ça, en facilitant encore plus, en permettant d'approfondir ces chaînes de valeur mondiale. Donc tout le monde a intérêt, tous les pays de cette zone ont intérêt à faciliter encore cet approfondissement. Et c'est là qu'ils ont vraiment un objectif commun, à mon avis. Les entreprises japonaises vont tirer profit de ces dispositions parce que ça sera encore plus facile pour elles de faire circuler des pièces détachées, des composants, des pièces intermédiaires entre les différents pays de l'ASEAN, par exemple, et le Japon. Ça existait déjà, il y avait déjà des possibilités de le faire parce que ces pays, notamment, avaient signé un accord sur les produits des technologies de l'information et de la communication, mais avec le RCEP, ça sera encore plus facile et ça pourra être généralisé en dehors de certains secteurs, à savoir le secteur électronique, par exemple. On va pouvoir organiser ces réseaux régionaux de production dans de plus grands nombreux secteurs.
Vous avez mentionné une exception. Voilà, vous avez mentionné une exception, Françoise Nicolas, parce qu'il y a, Emmanuel Véron, des produits stratégiques pour, ou que des États d'Asie considèrent comme étant stratégiques pour eux, qu'ils ont eu l'autorisation d'exclure de cette zone de libre-échange, en tout cas de ce partenariat.
Oui.
C'est ça ? Donc les voitures électriques pour la Chine, est-ce qu'on a d'autres exemples ?
Alors le sujet effectivement pour les voitures électriques, ça c'est un sujet assez important et structurant. Il y a un autre sujet bien évidemment, mais quand on regarde de près, il n'est pas si opérant que ça. C'est le sujet des microprocesseurs, des chips en anglais, des puces, des semi-conducteurs notamment. Mais si je reprends, et je suis tout à fait en phase avec Françoise Nicolas, sur le sujet en fait d'une intégration régionale, asiatique, avec une, comme on dirait, une chaîne de valeur en fait asiatique. Et que finalement, cette partie Asie est à l'avant-garde de la mondialisation aujourd'hui, malgré, si on remonte un peu dans le temps, malgré la crise asiatique, fin des années 90-97, on a une tendance qui demeure et qui se consolide. C'est ce que Françoise Nicolas expliquait, en fait, cette intégration régionale fonctionnelle par les échanges, par des échanges bilatéraux, peu importe, en fait, c'est qu'on a des circuits très asiatiques. Très Asie-Pacifique, comme on disait à une époque, ou Asie de l'Est, en fait. Chine, Japon, Corée, Asie du Sud-Est. Et on a cette triangulation, en fait, Asie du Nord-Est, Chine, Asie du Sud-Est. Malgré la crise de 2008-2009 des subprimes, on a la consolidation et la confirmation de ces dynamiques géoéconomiques. Malgré la crise Covid, on a la confirmation, la consolidation à la fois de ces échanges et de ces logiques. Et pour en venir à votre question sur les sujets précis, technologies, etc., malgré le rapport de force sino-américain, notamment sur les sujets des technologies, sur les sujets des taxes, etc., on a la confirmation de cette triangulation, ce qui peut mettre dans une position délicate des pays qui ont des alliances stratégiques communautaires avec les États-Unis, notamment la Corée du Sud, notamment le Japon, mais qui trouvent une ligne de crête pour continuer d'avoir une consolidation de ces liens économiques, peut-être davantage avec l'Asie du Sud-Est, et on retrouve ici les sujets critiques, notamment des microprocesseurs, en tout cas des semi-conducteurs, y compris Taïwan, que l'on a à peine évoqué pour l'instant, mais qui de facto participe à cet ensemble géographique régional que serait l'Asie de l'Est.
Même si pour l'instant les échanges commerciaux sont aussi, pour certains pays de ce RCEP, sont encore très très importants avec les États-Unis. Par exemple, la Corée du Sud a vu en fin d'année dernière, 2023, les États-Unis devenir ses premiers clients devant la Chine. Tout ça est toujours bien sûr très 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 mélangé. Donc quel bilan aujourd'hui, Françoise Nicolas, tiré d'ores et déjà 2 ans après la mise en place effective du RCEP, dans les grands mouvements de l'économie asiatique en ce moment? On parle beaucoup de la relative décélération de l'économie chinoise, 5,2% de croissance en 2023, ce qui reste élevé pour certains pays, ce qui est la croissance la plus basse que la Chine ait jamais eue depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on peut imputer avec certitude au RCEP dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les économies asiatiques?
Ça, c'est très compliqué. Il est toujours assez difficile de faire la part des choses entre ce qui est dû à la mise en œuvre du RCEP et puis ce qui est dû à simplement une logique et à des inerties antérieures. Comme je disais tout à l'heure, ça fait quand même très peu de temps que l'accord est véritablement entré en vigueur à l'échelle de l'ensemble de la région. Là, on a un recul de 6 mois, donc il est un petit peu difficile d'imputer quoi que ce soit au RCEP. Cela étant, je pense qu'on est à peu près certain. Je pense que le RCEP a, là encore, bien fait l'affaire de la Chine en permettant à des entreprises chinoises de se déployer en Asie du Sud-Est, par exemple, pour essayer d'éviter certaines sanctions américaines, typiquement. Donc je pense que le RCEP et la facilitation de l'intégration économique au niveau régional permet d'éviter, de contourner certaines sanctions. Donc ça, c'est, je pense qu'on peut mettre ça sur le compte du RCEP. Pour le reste, je pense qu'il est très très tôt pour savoir exactement ce qu'il s'est passé. Et en plus, il est de toute façon très très compliqué de distinguer ce qui se serait passé de toute façon et ce qui a été provoqué par le RCEP.
Partenariat. Emmanuel Véron.
Oui, d'ailleurs, en matière stratégique, dans la vision et dans le mode opératoire du régime, du parti à Pékin, il y a eu cette volonté de peser davantage et d'accélérer peut-être le process d'intégration, de signature, etc., qu'on a évoqué, qui était compliqué, long, avec peut-être des trous dans la raquette, mais en tout cas d'accélérer ce sujet, malgré la crise Covid, parce qu'il y a eu l'effet Trump et que précédemment à la période Covid, il y a eu véritablement un choc au niveau pékinois de la prise de conscience qu'on était sur une nouvelle phase de la mondialisation et notamment une nouvelle phase des échanges économiques très puissants, très structuraux entre les capacités économiques chinoises et sa dimension export et intégrée avec l'Amérique du Nord ou avec l'Europe. Et donc précisément là-dedans, c'était l'idée pour la Chine d'accélérer, de consolider sa mondialisation asiatique. Et de créer ce qu'on évoquait précédemment, cet arrière-cour, ce que dit Françoise Nicolas, tout à fait, je suis en phase avec elle encore, sur cette affaire de arrière-cour sud-est asiatique, notamment dominée, je pense qu'on peut le dire, par des diasporas chinoises qui sont plus ou moins anciennes, mais qui sont également plus ou moins toujours, là aussi, articulées aux politiques, État par État, Indonésie, Thaïlande, Cambodge.
Là, les diasporas chinoises sont très fortes encore aujourd'hui et pèsent aussi pour ce RCEP, c'est ce que vous voulez dire ?
Extrêmement structurantes, avec une continuité entre le politique et des consortiums industriels et d'entreprises dans différents secteurs, à peu près tous les secteurs finalement, et on voit qu'il y a cette continuité sur lesquelles le régime mise et s'appuie en tout cas. Et donc là, le RCEP a été un outil institutionnel pour formaliser cette intégration fonctionnelle.
Alors cette continuité, Françoise Nicolas, est-ce qu'on la voit aussi dans les réseaux de production ? Est-ce que ce genre de partenariat de libre-échange, le RCEP, j'allais redonner le nom total, mais il est tellement long que je finis par l'oublier. Donc ce partenariat qui lie donc ces 15 pays de l'Est, du Sud-Est asiatique, des pays de l'Asie-Pacifique et la Chine, est-ce qu'il contribue à terme, est-ce qu'il doit contribuer à réorganiser les réseaux de production à l'échelle régionale? On sait par exemple que la Corée du Sud est intéressée par les bas salaires des États voisins. Est-ce qu'on peut y projeter ce que ça va donner dans quelques années?
Oui, je pense que ça va vraiment faciliter les choses pour l'organisation, l'approfondissement des réseaux régionaux de production qui existent d'ores et déjà. Je tiens à insister sur ce point. Donc, les RCEP, il institutionnalise quelque chose qui existait d'ores et déjà, mais en facilitant les choses. Et il y a une disposition du RCEP qui est absolument cruciale, et ça a été mis en avant lorsque le texte est sorti, c'est l'harmonisation des règles d'origine, ce qui permet à des produits de circuler beaucoup plus facilement au sein de la région. Une fois qu'un produit a obtenu l'étiquetage, si vous voulez, RCEP, il peut circuler complètement librement au sein de l'ensemble de la zone. Donc évidemment, c'est beaucoup plus facile que dans le temps où il fallait respecter des règles d'origine, accord de libre-échange par accord de libre-échange. Donc il fallait savoir si on allait invoquer les règles d'origine dans le cadre de l'accord entre ASEAN et Chine ou dans le cadre de l'accord entre ASEAN et Japon. Et les règles d'origine n'étaient pas nécessairement les mêmes. Là, on a une harmonisation de ces règles et donc ça facilite vraiment les choses, et ça facilitera les choses pour les entreprises effectivement qui voudront par exemple s'implanter en Asie du Sud-Est parce qu'elles bénéficieront des bas salaires et elles pourront importer ça tranquillement, sans difficulté aucune, des composants des autres pays de la région. Donc il me semble assez évident que ce RCEP, il va dans le sens de ce qui existait déjà, mais en facilitant encore les échanges.
Emmanuel Véron.
Oui, j'en veux pour preuve d'ailleurs qu'on a les chiffres maintenant consolidés de 2023. Pour la première fois de son histoire contemporaine, la Chine exporte davantage vers les pays d'Asie du Sud-Est, donc ce format de 10 pays au sein du RCEP, davantage que vers l'Europe ou que vers les États-Unis.
Elle a redirigé ses exportations ou c'est juste qu'elle exporte beaucoup plus et donc aujourd'hui les chiffres également vers l'Asie du Sud-Est sont augmentés.
Probablement les deux, mais en fait on est sur cette nouvelle phase, cette nouvelle page de la mondialisation, on a cette reconcentration précisément de la Chine, qui a une contraction de son économie, l'économie va pas bien pour différentes raisons, etc., mais qui trouve une complémentarité, qui peut, comme Françoise Nicolas le disait, contourner des sanctions, des difficultés avec les États-Unis en travaillant son arrière-cour. Et précisément cette arrière-cour confucéenne, confucianisée, sinisée en Asie du Sud-Est. Et là, on a des pays comme le Vietnam, le Cambodge, voire le Laos, mais c'est peut-être dans un deuxième ou troisième rang, mais la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines.
Alors, est-ce que c'est pour ça que l'Inde a finalement s'est portée pâle pour la signature du RCEP et finalement absente du partenariat ? Est-ce que c'est parce que, justement, elle trouve que la Chine prend trop de place, Emmanuel Véron ?
Je crois que c'est la raison. C'est-à-dire que l'Inde, qui avait développé ces dernières années un agenda très sud-est asiatique, voire sud-pacifique, voire dans son ensemble asiatique, mais avec des liens et un format différent selon le destinataire, c'était pas tout à fait la même chose entre les relations indo-japonaises que Inde et Asie du Sud-Est, mais le poids croissant de la Chine et les fragilités, quelque part, par rapport à cette réalité de l'Inde, précisément en Asie du Sud-Est, ont contribué à ce qu'elle se retire de la discussion, ou en tout cas des échanges autour de la formalisation de ce RCEP. Et quelque part, la Chine a largement profité de ce retrait pour continuer d'occuper un espace qui lui était au préalable très favorable en matière économique et commerciale. Et là-dedans, il est intéressant également de voir sur la décision de Modi, la décision indienne, ces logiques économiques qui sont peut-être toujours plus superposées à une dimension stratégique qui, elle, serait indo-pacifique. On retrouve les sujets multilatéraux du Quad, de discussions stratégiques militaires et diplomatiques avec donc le Japon, l'Australie, les États-Unis, et essayer de développer un multilatéralisme en direction du Moyen-Orient et ailleurs.
On sait aussi que l'agriculture indienne est très attachée à ses centrales d'achat étatiques qui garantissent un prix plancher. Donc l'Inde n'avait pas spécialement envie de libéraliser ce secteur-là ou souhaitait davantage une libéralisation des services plutôt que des biens. Françoise Nicolas, est-ce que l'Inde a eu peur aussi d'être elle-même inondée de biens produits en Chine alors que, elle, l'Inde tente de rivaliser dans bien des domaines, notamment celui de l'électronique. Est-ce qu'il y a cette peur-là de la part de l'Inde ?
Je pense que oui, il y a plusieurs facteurs qui ont poussé l'Inde à se retirer des négociations. Il y a effectivement le fait que, aux yeux des Indiens, le secteur des services n'était peut-être pas suffisamment libéralisé, les engagements n'étaient pas suffisamment importants, alors que la libéralisation des biens manufacturés l'était plus. Or, ce n'est pas le secteur dans lequel l'Inde aurait gagné quoi que ce soit. Donc je pense que c'est ça qui les a incités, et ils ont craint certainement aussi, oui, d'être inondés de biens manufacturés chinois. Donc je pense qu'il y a pas mal de raisons. L'agriculture, je ne suis pas sûr là que ça ait joué un rôle très très important, parce que on voit que dans les autres pays qui ont signé cet accord, nombre d'entre eux ont retiré les produits agricoles du champ de couverture de la libéralisation tarifaire. C'est le cas des Philippines, par exemple. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'ils aient tardé autant à ratifier l'accord. Ils étaient très, très inquiets de ce qui allait se passer avec leur secteur agricole. Et donc, ils ont retiré de très, très nombreuses lignes tarifaires concernant les produits agricoles, de l'application de la libéralisation tarifaire incluse dans l'accord. Donc il y avait toujours moyen de retirer l'agriculture de l'application de l'accord. Donc ça, à mon avis, c'est pas la raison essentielle, mais la crainte était l'arrivée en trop grand nombre de produits manufacturés et l'insuffisante libéralisation du secteur des services.
L'Inde, qui est par ailleurs très fière de dire qu'aujourd'hui, enfin en 2024, 25% des iPhones sortent d'usines indiennes, ou en tout cas ça sera bientôt le cas à la fin de l'année, 25%, un quart. Narendra Modi le dit souvent, venez fabriquer en Inde, et a augmenté d'ailleurs les droits de douane pour favoriser la production locale. Les taxes à l'importation en Inde étaient fixées à 18% en 2022. Alors ce RCEP, dont ne fait pas partie l'Inde, ce n'est pas une alliance, c'est un espace de libre-échange, certes, mais cet accord de libre-échange peut-il maintenir certains équilibres géopolitiques en vertu de cette formule rhétorique et par ailleurs largement débattue du doux commerce, de la paix par le commerce? Il se trouve qu'il y a eu encore là, il y a quelques jours, un nouvel incident en mer de Chine méridionale. Les Philippines accusent des gardes-côtes chinois d'avoir tiré sur un navire de ravitaillement philippin.
Leurs canons à eau étaient vraiment à très haute pression. Et ça a causé des dégâts. Ça a éclaté le pare-brise du navire et blessé une partie de notre personnel.
La position de la Chine sur l'atoll de Rhenai est inchangée et claire. Pendant un temps, la Chine et les Philippines ont maintenu la communication sur la gestion de la situation, mais les Philippines ont à nouveau violé leurs engagements vis-à-vis de la Chine.
Manille et Pékin s'accusent respectivement d'agression, de violation de souveraineté dans cette zone maritime disputée, comme beaucoup, comme une grande partie de cette mer de Chine méridionale. Donc on a là Emmanuel Véron, des pays qui ont encore une fois signé un traité de libre-échange entre eux, mais qui, dans les mers et d'une façon sécuritaire, se mènent quand même, se regardent en chien de faïence et se surveillent les uns les autres. Comment expliquer que tout ça, pour l'instant, néanmoins fonctionne ? C'est-à-dire le commerce marche.
Oui,
ou peut-être que la question n'est pas prise, que la question n'est pas prise dans le bon sens, mais je vous laisse me répondre.
Ça peut sembler effectivement contradictoire a priori, de manière objective quand on regarde à l'échelle des États et à l'échelle des différents théâtres frictionnels, c'est contradictoire. Mais il y a un précédent, c'est-à-dire que avant le RCEP, la situation était à peu près similaire entre la Chine, qui a plus ou moins cornaqué l'ASEAN, puisqu'on a différents formats de l'ASEAN, ASEAN plus 3, ASEAN plus 6, etc.
L'Association des pays d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN.
L'Association des pays du Sud-Est, absolument. Et ce qui montrait, ce que l'on évoquait précédemment, en fait, le poids de la Chine et de ses différents acteurs, de ses différents opérateurs économiques, commerciaux, ou diplomatico-commerciaux dans l'ensemble de ces pays d'Asie du Sud-Est, malgré les contentieux, malgré les rivalités qu'il peut y avoir, malgré des tensions à tous les niveaux, militaires, etc. Le sujet est que pour ces pays d'Asie du Sud-Est, maintenant, ils ne peuvent pas complètement se défaire de ces réseaux-là, hein, tout de suite, puisque les réseaux diasporiques chinois et le poids de la Chine dans l'équation économique bilatérale, Chine-Vietnam, Chine-Indonésie, Chine-Philippines, pour reprendre l'exemple des Philippines, est tellement important. Quand on regarde, en fait, l'ensemble du paysage géoéconomique des pays d'Asie Sud-Est et qui sont riverains, prendre l'exemple de la mer de Chine méridionale, le premier partenaire commercial est bien souvent, sinon tout le temps, la Chine. Donc il y a cette forme de chinoise probablement délibérée, en plus du fonctionnel, en plus de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a une volonté du régime de peser dans les échanges économiques pour rendre dépendant une périphérie. Hier, dans l'histoire impériale chinoise, on parlait de vassaux, de tribus, de tributaires, etc. Ces pays-là, aujourd'hui, ces États-nations-là, sont très dépendantes de la Chine. Et inversement, la Chine ne sera pas dépendante des Philippines, puisqu'elle a diversifié son portefeuille, qu'elle est présente un petit peu partout. Mais on a une dissymétrie dans les échanges qui vient expliquer, si vous voulez, cette contradiction qui perdure entre le domaine politique et stratégique et le domaine économique commercial pur.
Et pour conclure cette discussion sur un sujet qui fait le lien entre les deux, Françoise Nicolas, on n'a pas parlé d'un autre absent de ce RCEP, c'est Taïwan. Taïwan que la Chine voudrait réintégrer dans son giron. Aujourd'hui, quelles conséquences économiques pour Taïwan, le fait de ne pas faire partie de ce grand partenariat régional économique global, est-ce que ça peut contribuer à fragiliser Taïwan ?
Non, contribuer à fragiliser peut-être pas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Taïwan est intéressé par un autre accord régional, à savoir le nouveau partenariat transpacifique, celui qui s'appelle maintenant le CPTPP et non plus simplement le TPP.
Bon, le RCEP avec les États-Unis alors.
Non.
D'accord.
Il est absolument exclu que Taïwan fasse partie du RCEP parce qu'il faudrait que la Chine donne son accord et ça c'est absolument exclu. Par contre, on a parallèlement au RCEP, un autre grand accord de libre-échange, dont on a aussi beaucoup parlé, à savoir le nouvel accord transpacifique, auquel les États-Unis n'appartiennent plus, puisque Trump s'en est retiré lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il l'avait promis, et effectivement, il s'est retiré à ce moment-là. Et donc, c'est le Japon qui a repris le relais et qui a permis à cet accord-là d'être non seulement signé, mais ratifié. Il est entré en vigueur, d'ailleurs, avant le RCEP. Et cet accord-là, il rassemble un certain nombre de pays asiatiques, pas tous ceux de l'Asie du Sud-Est, mais il réunit le Japon, la Corée, un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est et certains autres pays de l'autre côté du Pacifique, à savoir certains pays latino-américains comme le Mexique, le Chili, le Pérou. Et cet accord-là, Taïwan est très intéressé d'y adhérer. Donc ça, c'est assez intéressant. La Chine a dit qu'elle aussi était intéressée. Donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est ce qui va se passer avec ces deux candidatures. Est-ce qu'elles vont être acceptées parallèlement, de manière séquentielle, ou pas du tout? À mon avis, c'est plutôt cette dernière option qui prévaudra. Donc là, Taïwan est plus intéressée par cet accord-là que par les RCEP, auxquels elle sait qu'elle ne peut pas appartenir, car il faudrait l'accord de la Chine.
Merci Françoise Nicolas, vous restez avec nous, ainsi que vous Emmanuel Véron. Dewa Sembilan et Belas, c'est un groupe indonésien très célèbre en Indonésie. On parle de l'Indonésie juste après ce titre qui date de 2000. Dewa Sembilan Belas, un groupe indonésien qui a eu un grand succès en l'an 2000 avec cette chanson Separu Nafas, qui veut dire la moitié de mon souffle. Vous écoutez Culture Monde, deuxième volet de notre série sur les accords de libre-échange et sur leurs implications politiques et sociales. Aujourd'hui, la plus grande zone de libre-échange au monde, le RCEP, qui inclut Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande et pays d'Asie du Sud-Est. L'Indonésie, au départ très enthousiaste, a finalement mis énormément de temps à rejoindre ce traité.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Avant-dernier pays à avoir ratifié le partenariat régional économique global avant les Philippines, l'Indonésie est un partenaire particulier situé entre l'Australie, la Chine, les États-Unis et l'Inde, tiraillé entre les récurrentes incursions de la marine chinoise en mer de Chine méridionale et les bénéfices de l'intégration de la plus grande zone de libre-échange au monde. L'Indonésie conseillée en la matière par cet économiste de l'Institut de recherche pour l'Asie du Sud-Est.
So for Indonesia to be able to win these competitions,
pour que l'Indonésie puisse remporter cette compétition, elle ne doit pas protéger ses producteurs ou ses travailleurs, mais plutôt créer un environnement plus favorable à la croissance et à l'expansion des producteurs sur les marchés internationaux. Parallèlement, l'Indonésie doit aussi doter ses professionnels et ses travailleurs de compétences techniques et numériques pour qu'ils soient prêts à entrer sur le marché du travail ou à devenir entrepreneur et qu'ils puissent changer de secteur ou de pays.
Bonjour François Rayon. Est-ce que vous êtes
Bonjour.
Avec nous? Bonjour, vous êtes bienvenue à vous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, fondateur du Centre Asie du Sud-Est à l'EHESS. Merci beaucoup d'être avec nous. François Rayon, pourquoi l'Indonésie a-t-elle été parmi les derniers signataires du traité de libre-échange à RCEP alors qu'elle a contribué à le mettre en place, comme nous le disait Françoise Nicolas tout à l'heure?
Oui, ben ça tient au fait que la gestation du RTEP a été très longue, comme ça a été dit par les intervenants. L'Indonésie était en fait au départ le moteur de ce projet qui a duré pendant quelques années avant qu'on arrive au Covid. C'est en fait, si vous voulez, le RCEP, ce qui a déclenché la signature de cet accord, c'est essentiellement le choc du Covid et de la panique qui a sévi dans toute l'Asie orientale, de l'Indonésie jusqu'à la Chine, en passant par le Japon et la Thaïlande, avec cette inquiétude d'une fermeture des frontières, plus rien ne circulait, une crainte de la démondialisation. Et puis, donc on a signé l'accord à 15, et dès que l'on est sorti de la pandémie, les Indonésiens et les Sud-Est asiatiques, avant les Chinois, la Chine a eu beaucoup de mal à sortir du Covid, l'urgence du RCEP a diminué, d'autant que les évaluations de ce qu'elle pouvait produire en termes de croissance et du commerce extérieur ont été évalués à environ une quarantaine de milliards de dollars pour l'ensemble, ce qui représente beaucoup moins de 1% du PIB de tous ces pays. Et comme pendant que la Chine avait du mal à sortir du Covid, les économies de l'Asie du Sud-Est, y compris celles de l'Indonésie, ont connu un sursaut très très actif en 2022-2023, avec en général 5%, autour de 5% de croissance, ce qui a diminué l'intérêt de cet accord pour l'Indonésie comme pour les Philippines, d'autant que la plupart des droits de douane dans la région sont déjà très bas. Donc la perspective de les baisser encore est très étroite. Et en fait, ça revient à une rationalisation de tous les accords bilatéraux très nombreux qui existent dans la région. Et d'autre part, il s'agit de régler la question des certificats d'origine pour définir dans quelles conditions les produits pourront bénéficier des derniers abaissements des droits de douane.
Alors, est-ce que, François Rayon, en Indonésie aussi, parce qu'on a expliqué que ce traité a dû faire l'objet d'une ratification par les parlements régionaux, enfin les parlements nationaux des pays qui aujourd'hui adhèrent à ce RCEP. Est-ce que la ratification du partenariat régional économique global a fait l'objet en Indonésie de débats politiques? Est-ce qu'il y a de la place pour ça dans un pays où le fils du président sortant va devenir le vice-président du successeur de son père? Pour le dire vite.
Oui, alors donc il n'y a pas eu trop de débats puisque les Indonésiens sont habitués à signer toutes sortes d'accords, y compris économiques et commerciaux, au sein de l'ASEAN, mais aussi entre l'ASEAN et des partenaires extérieurs. Et ceci dit, il faut se méfier, si vous voulez, du côté assez institutionnel de ces accords, qui sont souvent très formels, mais qui n'ont pas forcément toujours un impact extrêmement grand en pratique. Et un pays comme l'Indonésie, même si elle a signé cet accord, et même avec la succession du président Jokowi qui va être remplacé par le général Prabowo,
son ministre de la Défense.
L'Indonésie se sent très souveraine et elle fait ce qu'elle veut. D'ailleurs, on pourrait regarder, par exemple, ce qui a été fait à propos du nickel. Vous savez que la question des exportations de nickel est devenue un vrai problème dans la région et même mondialement, puisque l'Indonésie, qui vient de signer un accord de libre-échange, en même temps, à peu près parallèlement, en 2020 et puis surtout en 2021, a proclamé l'interdiction de l'exportation du minerai de nickel. Et ce qui a vous savez que le nickel entre dans la fabrication des batteries et que c'est un des composants essentiels pour les voitures électriques. Et donc ce qu'a fait le président Jokowi, qui va quitter le pouvoir prochainement, c'était de dire on interdit les exportations de minerai de nickel et on invite les investisseurs du monde entier à venir créer des usines, des fonderies pour créer de l'acier inoxydable et puis surtout pour faire des composants pour les batteries. Alors, et si vous voulez, c'était une lutte pour la valeur ajoutée puisque le pays veut s'industrialiser et pour s'industrialiser, il a besoin d'un protectionnisme qui est contraire à l'esprit du RCEP.
Alors François Rayon, le temps file malheureusement, mais je voulais aussi vous demander si Joko Widodo, donc le président actuel de l'Indonésie qui va céder sa place à son ancien ministre de la Défense élu par ailleurs, est-ce que, donc on sait qu'il a pris plein de mesures sociales depuis le début de son mandat, notamment une sorte d'assurance l'assurance maladie universelle, etc., mais avec aussi des mesures très libérales qu'il a pu prendre. Est-ce que c'est par exemple dans le cadre de cet accord de libre-échange que l'Indonésie a fortement réformé le droit du travail ces derniers temps, permis aux entreprises de licencier facilement en cas de baisse du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est le RCEP, ce traité de libre-échange, qui a contribué à modifier le droit du travail en Indonésie?
Oui, enfin, on peut dire que c'est à peu près le même mouvement de libéralisation de l'économie au détriment des aspects sociaux à toute évidence. Mais l'idée étant qu'il s'agit de faciliter les investissements étrangers et d'attirer les délocalisations qui viennent de Chine et qui arrivent au Vietnam, en Thaïlande et notamment et surtout en Indonésie. Dans les deux dernières années, il y a eu plus de 120 délocalisations d'usines et d'industries venant de Chine et qui ont été implantées en Indonésie. Donc l'argument, c'est que avant de développer les droits des travailleurs, il faut d'abord leur donner du travail. Et pour qu'ils aient du travail, il faut qu'il y ait des usines. Et pour qu'il y ait des usines, il faut que les exportations brutes et primaires soient remplacées par des exportations de produits finis.
Un dernier mot, François Rayon, sur les relations qu'entretient l'Indonésie du président Joko Widodo et la Chine, qui avait choisi Jakarta pour lancer en 2013 son projet de nouvelle route de la soie maritime. Où en est ce projet-là? Est-ce qu'il va être accéléré par le RCEP? Alors, pour ce qui est déjà fait, il y a cette ligne de TGV qui relie Jakarta à Bandung en 45 minutes, il y a une centrale hydroélectrique sur le fleuve Kayan à Bornéo, mais est-ce qu'il y a d'autres gros projets qui sont annoncés en Indonésie et qui réellement entrent dans le cadre de ce RCEP?
En réalité, il y a eu depuis 10 ans énormément de coopération technique dans le cadre des routes de la soie, notamment maritimes, entre la Chine donc et l'Indonésie. Et depuis 10 ans, les infrastructures indonésiennes se sont développées de façon absolument spectaculaire, des dizaines de ports, d'aéroports, des autoroutes, etc., du ferroviaire, avec l'aide donc des Chinois. Actuellement, on passe dans une nouvelle phase qui est celle de l'industrialisation, qui va être privilégiée. Et qui, donc, en fait, le RCEP n'a pas joué de rôle puisqu'il n'était pas encore signé lorsqu'il y a eu ces développements d'infrastructures. Et maintenant, on passe à une nouvelle phase qui pourrait entraîner un petit peu de protectionnisme de la part de l'Indonésie pour développer son industrie. Et il semble que le prochain président va faire de même que l'actuel.
Et quant à cette économie indonésienne, il faut quand même rappeler qu'elle est devenue cette année la 5e plus grande économie du monde, à la place du Royaume-Uni, d'après en tout cas les chiffres de la Banque mondiale, alors qu'il y a encore 8 ans, elle ne figurait pas parmi les 30 premiers du classement. Il y a aussi une classe moyenne qui s'est développée en Indonésie, 30 à 40% de la population aujourd'hui, qui est ce, entre guillemets, marché que convoitent aujourd'hui des partenaires du RCEP. Merci beaucoup François Rayon d'avoir été avec nous, directeur de recherche au CNRS et fondateur du Centre Asie du Sud-Est à l'EHESS. Emmanuel Véron, un petit mot pour conclure, parce que vous avez tous les trois dit, Françoise Nicolas, vous et François Rayon, tout au long de cette émission, que finalement le RCEP ne changeait pas grand-chose ou consolidait des choses qui existaient déjà. Alors si on devait quand même juste conclure, parce que ça change ce RCEP?
Oui, peut-être la confirmation de la consolidation de la profondeur stratégique chinoise en
Asie
du Sud-Est.
Encore une consolidation, alors.
Une consolidation, voilà, de la profondeur stratégique chinoise, notamment sur les sujets commerciaux, économiques, alors même qu'en Chine populaire, l'économie se contracte et la croissance est dans une logique de tassement.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler, spécialiste de la Chine contemporaine et des relations internationales, associé à l'INALCO et l'École navale. Je rappelle le titre du livre que vous avez coécrit avec Emmanuel Linco, « La Chine face au monde, une puissance revisitée », paru en 2021 aux éditions Capit Muscas. Merci beaucoup Françoise Nicolas d'avoir été avec nous, conseiller du Centre Asie de l'IFRI, conseillère pardon. Je vous remercie et c'est l'heure de la revue de presse internationale de Catherine Dutu.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et à la une ce matin, Catherine, la chaleur et la sécheresse sur le continent africain. Dernier exemple en date, le Malawi déclare l'état de catastrophe.
À cause d'une grave sécheresse qui touche ce pays d'Afrique australe de 21 millions d'habitants, la région, qui comprend la Zambie, le Zimbabwe et le Botswana, vient de connaître le mois de février le plus sec de ces 40 dernières années, alerte le Programme alimentaire mondial de l'ONU et la Deutsche Welle, la radio internationale allemande. Les récoltes ne sont pas bonnes à cause du réchauffement climatique et d'El Niño qui s'accompagne de phénomènes météo violents, précise la BBC et la chaîne panafricaine Africa News. Le Malawi, déjà éprouvé frappée par le passage du cyclone Freddy l'an dernier voit désormais près de la moitié de sa récolte de maïs être affectée par la sécheresse. Une paysanne malawite le confirme à la télévision internationale chinoise CGTN. Sur la parcelle que je cultive avec mes enfants, on peut récolter normalement de quoi remplir une vingtaine de sacs de 50 kilos de maïs les années où il y a assez de pluie. Mais cette année, je ne vais pas vous mentir, c'est rien. Cette paysanne demande désormais de l'aide pour manger et ce n'est pas la seule au Malawi.
The food that we have seen we are distributing today is for the season that we are in.
La nourriture que nous distribuons aujourd'hui est pour la saison actuelle, celle que nous traversons, explique toujours à CGTN Brighton Mpinga, agent de gestion des catastrophes pour le district de Neno, dans le sud du Malawi. Mais il y a, dit-il, une famine supplémentaire à affronter pour la saison prochaine, pour la période de soudure alimentaire, à cause de la sécheresse actuelle. D'autres personnes vont donc avoir besoin d'aide, qui plus est avec les récentes déclarations du président. Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, estime que 20 millions d'habitants pourraient avoir besoin d'aide alimentaire. C'est presque toute la population du Malawi. Il demande donc 200 millions de dollars à la communauté internationale pour éviter une famine. Et ce, moins d'un mois après que la Zambie voisine a également lancé un appel à l'aide, souligne la Deutsche Welle. Un tiers des habitants de Zambie sont confrontés à de graves pénuries alimentaires. Sans compter un manque d'électricité, indique la BBC, car la majeure partie de l'énergie en Zambie provient de sources d'eau de barrages hydroélectriques. Le Zimbabwe, un peu plus au sud, a également vu une grande partie de ses récoltes décimées. 50 millions de personnes en Afrique australe et dans certaines parties de l'Afrique centrale sont déjà confrontées à l'insécurité alimentaire. Nouvelle preuve, s'il en fallait, pour la chaîne CGTN, que les pays africains subissent les pires effets du dérèglement climatique, alors même qu'ils contribuent le moins aux émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Et ce ne sont pas les seuls pays à souffrir de la chaleur en ce moment.
Pour la deuxième semaine consécutive, les écoles du Soudan du Sud restent fermées à cause de la canicule, indique le quotidien Sudan Tribune. 38 à 41 degrés sur place cette semaine. Par ailleurs, 34 degrés aujourd'hui à Port Harcourt, dans le sud du Nigeria, 35 degrés à Kumasi, au Ghana. La ville jardin, comme on la surnomme, connaît des chaleurs écrasantes, note Jeune Afrique. Le mercure est grimpé jusqu'à 41, 43 degrés le mois dernier au Nigeria et au Ghana, avec un ressenti parfois de 10 degrés de plus que la température affichée au thermomètre. Risque de malaise, parfois mortel, car la moiteur rend plus difficile le refroidissement du corps et les vagues de chaleur peuvent être des tueuses silencieuses selon la Croix-Rouge. De l'autre côté du globe, Rio a enregistré des températures ressenties de plus de 62 degrés le week-end du 16 au 17 mars, relève O Globo et la Folia de São Paulo. Sécheresse également au Vietnam, ajoute la revue Eurasia et Al Jazeera. Le mois de mars pourrait être le plus chaud de l'histoire, alerte Jeune Afrique. Alors, plus besoin d'attendre après la mort pour être plongé dans le brasier éternel de la GN. L'enfer, c'est sur Terre, écrit le journal Wakatsera au Burkina Faso. À quand une prise de conscience générale et salutaire? Question posée par le journal burkinabé à tous les agresseurs du climat, notamment aux pollueurs XXL.
Et pour conclure, Catherine, Washington, Londres et Wellington en Nouvelle-Zélande accusent Pékin de cyberattaque.
À quelques mois des élections britanniques et américaines, pour le New York Times, c'est le signe d'une escalade du cyberconflit entre les alliés occidentaux et Pékin. Cette photo d'identité s'affiche ainsi en une de la BBC et de Radio Free Asia, financée par le Congrès des États-Unis. Sept Chinois inculpés par le ministère américain de la Justice pour piratage informatique à l'échelle mondiale, et ce, pendant 14 ans. Cette opération a nécessité, explique le Wall Street Journal, l'envoi de plus de 10 000 courriels visant des entreprises, des hommes politiques, des journalistes basés aux États-Unis et à l'étranger. Selon Washington, ce groupe, baptisé APT-31, est à l'origine de ce programme de cyberespionnage géré par le puissant ministère chinois de la sécurité. Les pirates ont eu accès à des comptes de messagerie, des comptes de stockage en nuage, en cloud, et des enregistrements d'appels téléphoniques. Au Royaume-Uni aussi, des acteurs affiliés à l'État chinois ont commis deux cyberattaques malveillantes en 2020 et 2021, rapporte la BBC. Et puis en Nouvelle-Zélande, l'agence de cybersécurité a elle aussi établi un lien entre un groupe connu de cyberpirate soutenu par l'État chinois et une cyberattaque contre le Parlement néo-zélandais et ses députés, rapporte le New Zealand Herald. La Chine, note la BBC, rejette en bloc toutes ces accusations sans fondement, dit-elle.
Merci Catherine Dutu.